Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2 heures d'info, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Yannick Agnel, donc, qui reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés. Un ancien ministre de l'Intérieur en prison. Et puis le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Gros morceau pour Lille qui sera opposé à Chelsea, le tenant du titre. Le PSG sera face à un autre club anglais, Manchester United.
Ce sera pas simple. L'affaire Agnel à 12h40 et le débat autour du consentement des mineurs. Et à 12h50, la menace Omicron. Le raz de marée qui touche le Royaume-Uni va-t-il arriver en France? Doit-on craindre une sixième vague dès janvier, comme le disait ce matin sur RTL Martin Hirsch?
Notre question du jour sur RTL.fr lutte justement contre le Covid. Et cette question, soutenez-vous toujours autant les soignants? Vous dites oui à 64%. La météo du jour, c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine.
Bon, c'est simple et classique. Gris au nord, soleil au sud.
Exactement. Je surveille l'évolution là, avec les images satellites. On a encore un peu de grisaille sur la côte aquitaine, mais on voit bien que dans la moitié sud, vous allez retrouver du soleil. On voit très bien d'ailleurs la neige en montagne, sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Donc au sud du Nil, à peu près La Rochelle, Lyon, Besançon. Et bien là, vous aurez du soleil. Au nord, c'est l'inverse. On restera gris, sous le ciel gris toute la journée. En revanche, pas de précipitation, parce que c'est quand même l'anticyclone qui revient. Et les températures, 4 à 7, 6, 8 degrés dans le nord-est, entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace. On sera entre 8 et 12, 13 degrés dans les autres régions. Il n'y a que près de la Méditerranée, où on frôlera parfois les 15 degrés.
Pas mal. Le programme de la semaine, ce sera à 13h. À tout à l'heure, Louis.
RTL Midi.
Et on commence donc avec ce qui est l'une des principales informations de cette mi-journée. Yannick Agnel, qui reconnaît avoir eu une relation avec la jeune fille qui l'accuse. Elle avait, on le rappelle, 13 ans au moment des faits. L'ex-nageur, en revanche, nie toute contrainte, Samuel Goldschmidt.
Oui, c'est la ligne qu'il a fini par adopter au fil de cette longue garde à vue qui s'est terminée samedi. À ce stade de l'enquête, la procureure Edwige Roux-Morizot s'en contente.
Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il précise que pour lui, il n'avait pas en tout cas le sentiment qu'il y a eu contrainte. Si les faits sont effectivement constitutifs de viol ou d'agression sexuelle, et ça c'est moi qui le rappelle, c'est parce qu'il existe une différence d'âge importante entre les 13 ans, qui était l'âge de la jeune victime, et les 24 ans de Yannick Agnel au moment des faits.
En tout cas, elle n'a pas pu contester ce qui s'était passé car l'équipe de la commissaire Audrey Jandel a passé de longs mois d'enquête depuis la plainte.
Il a été très important pour nous, service de police judiciaire, d'engager un moyen considérable afin de faire le clair sur les faits qui ont été dénoncés par la victime, qui a longuement effectivement été entendue par nos services, afin de circonstancier, circonstances qui ont été largement développées et qui ont permis d'obtenir les aveux de Yannick Agnel.
On le répète donc, Yannick Agnel n'a pas pu faire autrement que d'admettre les faits. Pour l'heure, l'ex-nageur a interdiction de quitter la petite couronne parisienne et de se rendre à Mulhouse. Il doit remettre son passeport et a interdiction d'entrer en contact avec son agente et la famille Horter.
Il est en effet mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Merci à vous Samuel Goldschmidt en direct depuis Mulhouse pour RTL.
Claude Guéant, et c'est l'information de la matinée, est en prison.
L'ancien ministre de l'Intérieur a été incarcéré ce matin à la Santé. Guillemette Franquet, que lui reproche-t-on?
Eh bien, il faut remonter à 2019 pour l'expliquer. Il y a 2 ans, Claude Guéant a été condamné à un an ferme par la Cour de cassation dans l'affaire dite des primes de cabinet. En 2002-2003, alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, il s'était versé des primes en piochant dans une enveloppe dédiée aux policiers. Depuis sa condamnation, l'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy rembourse tous les mois 3000 euros, une somme que la Cour d'appel de Paris a jugée finalement insuffisante début novembre. Une partie de sa liberté conditionnelle et de son sursis ont donc été révoquées. Claude Guéant incarcéré. Une décision difficile à comprendre selon son avocat, Maître Bouchez Elgozi.
3000 euros par mois, c'est déjà beaucoup quand vous gagnez une retraite de 5500. Lui, il a un sentiment d'une profonde injustice parce que il fait ce qu'il peut, il a fait ce qu'il peut pour payer cette dette. Il cumule depuis des années un certain nombre de mises en cause, d'affaires judiciaires. À 77 ans, dans son état de santé, ça commence à faire beaucoup. Et moi, je le sens extrêmement abattu sur cette situation, évidemment.
Et ce soir, Claude Guéant va donc dormir pour la première fois de sa vie derrière les barreaux. Il pourrait y rester en théorie 9 mois.
Guillemette Franquet, merci pour ces explications. Dans l'affaire Jubilar, les proches de la jeune femme s'interrogent après ces dernières révélations. Cédric, le mari, mis en examen, aurait à plusieurs reprises parlé de crime parfait. Écoutez, Maître Pressec, c'est l'avocat de la cousine de Delphine Jubilar.
Ça peut être dit sous le ton de la provocation, ça peut être un aveu, mais il faudrait avoir le procès-verbal dans son entier, il faudrait avoir le son, parce que la manière dont c'est dit compte aussi. Ça peut être justement une forme de suicide moral, presque, hein, de venir comme ça proclamer sa culpabilité, en sachant par ailleurs et en étant persuadé qu'il ne sera jamais trouvé, qu'il ne sera jamais déclaré coupable, parce qu'il considère qu'il a réussi à faire un crime parfait. Tout est possible. Je vois beaucoup de provocations dans son comportement. Et ce comportement-là, provocateur, ça peut être celui d'un coupable ou d'un innocent.
Maître Pressec au micro RTL de Patrick Hisson. Le gouverneur de la Banque de France l'avait laissé entendre la semaine dernière sur RTL. Bruno Le Maire le confirme ce matin. Le taux du livret A va bien augmenter. De combien? C'est encore toute la question. Elle sera tranchée en janvier pour une entrée en vigueur en février.
L'indemnité inflation a, elle, été versée dès aujourd'hui aux étudiants boursiers.
Et au total, ce sont 38 millions de personnes qui y auront droit, tous ceux qui touchent moins de 2000 euros net par mois. Pour les salariés du privé, ce sera d'ici la fin du mois de décembre, sur le prochain bulletin de salaire, à condition que d'ici là, les patrons comme Bénédicte Caron aient trouvé les réponses aux questions encore nombreuses.
Pour l'instant, on ne sait pas comment gérer les gens qui nous ont quittés courant du mois d'octobre, les remplaçants, le congé parental, avec les étudiants, les gens qui sont en longue maladie. Dans la liste des exceptions, on trouve aussi des gens qui, malheureusement, gagnent un tout petit peu plus de 2000 euros. Ça va être compliqué humainement parlant. C'est la facilité pour l'État, c'est forcément envoyer le problème vers les chefs d'entreprise que nous sommes, et c'est nous qui faisons le travail aujourd'hui.
Bénédicte Caro, patronne du Super-U de Wassel en Normandie, joint pour RTL par Anaïs Bouissou. Le Covid, et alors qu'on est encore en pleine cinquième vague, Martin Hirsch en annonce déjà une sixième sur RTL. Le directeur général de l'assistante publique Hôpitaux de Paris appelle ce matin chacun d'entre nous à la plus grande vigilance.
Qu'on essaye de préserver le fait qu'on se retrouve en famille, parce que ça contribue à se sentir bien dans une période où on a du mal à se sentir bien. Ok. Mais en revanche, c'est pas la peine d'aller faire la bamba partout, quoi. C'est pas la peine de prendre ce risque-là. Sinon, on va foutre l'hôpital vraiment en carafe à un moment donné. Toutes ceux qui peuvent faire des dépistages, faites des dépistages ces jours-ci. Ne voyez pas trop de monde avant de voir vos proches à Noël. Rappel hyper efficace, et on n'a pas dit un mot de la sixième vague, qui est Omicron, qui va venir après, en janvier.
Le directeur de l'APHP, invité ce matin Dave Baventura sur RTL, Omicron qui touche déjà nos voisins britanniques. Boris Johnson a même parlé hier d'un raz-de-marée. Faut-il s'inquiéter? Peut-on y échapper? On pose la question au professeur Crépet dans moins de 10 minutes sur RTL.
Tout à fait autre chose à présent. Emmanuel Macron est en Hongrie.
Dernière étape de sa tournée des capitales européennes avant de prendre la présidence de l'Union. Ce sera début janvier. Le président doit déjeuner avec Viktor Orban dans moins d'une demi-heure. Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL. Le face-à-face risque d'être tendu.
Un entretien électrique dès le début. Emmanuel Macron abordera de suite les sujets qui fâchent, état de droit, corruption, droit des LGBT+. Mais Viktor Orban le sait et il l'attend de pied ferme, selon la politologue hongroise Esther Petroni à Choche.
C'est pas dans son habitude de fléchir sur des messages politiques. Il est très rationnel, donc je crois qu'il a un plan et il va exécuter ce plan. C'est pas forcément les messages politiques du président français qui vont changer sa position. Je crois que c'est beaucoup plus important pour Emmanuel Macron, pour des raisons domestiques, d'évoquer ces sujets. C'est pas forcément dans les médias que va se jouer ce jeu.
Emmanuel Macron et Viktor Orban affronteront chacun les urnes en avril. Les deux hommes sont donc en campagne et sur un perron ensoleillé, chacun voudra donc lancer un message à ses propres électeurs.
Bénédicte Tassard, envoyé spécial de RTL en Hongrie, aux États-Unis. Les chances de retrouver des survivants sont désormais infimes après les tornades de ce week-end. Dans le Kentucky à Mayfield, la commune la plus touchée, la Sodexo Solidarité s'organise malgré tout pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Lionel Gendron est sur place pour RTL.
Oui, Eric regarde fixement la prison de Mayfield. Il n'y a plus de toit, mais les murs ont tenu. On ne sait pas s'il y a eu des évasions après la tornade, mais ce n'est pas son sujet. Lui est venu voir si les prisonniers sont en vie, car il s'occupe de leur suivi. Ils ont sans doute été transférés dans un autre établissement, me dit-il. Il va les appeler pour savoir si tout le monde va bien. Dans chaque rue, où ce qu'il en reste, des tables de fortune avec écrit sur un bout de carton eau, sandwich, chocolat. Ce n'est pas marqué, mais il propose aussi du réconfort. Une aide, quelle qu'elle soit, c'est ce qu'est venu proposer Adam.
I just drove in. I'm from Texas.
J'arrive du Texas, mais je suis originaire du Kentucky.
Je suis un ancien militaire et je veux juste proposer mon aide. Donc je cherche un endroit où je vais pouvoir le faire. J'ai dans ma voiture du matériel de première nécessité. Je vais voir ce que je peux faire.
Factuellement, tous ces secouristes bénévoles gênent les professionnels en encombrant les accès. Mais difficile pour l'instant de les blâmer.
Lionel Gendron, l'envoyé spécial d'RTL dans le Kentucky. Le foot, Pascal ?
Le foot et on sait les adversaires de Paris et de Lille.
Oui, pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le tirage au sort, Nicolas Georgerot, bonjour, a eu lieu il y a quelques minutes et ce sera donc du 100% anglais.
PSG, Manchester United et Chelsea, Lille, c'est
beau
le pire
spectacle.
Tirage. Oui, tout à fait, pour les champions de France, Lille affrontera le vainqueur sortant de la Ligue des Champions, Chelsea emmené par l'ancien entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, et avec notamment N'Golo Kanté dans ses rangs. Les Blues sont troisième de leur championnat actuellement, ce sera dur, très dur pour les Lillois, match aller en Angleterre, retour au stade Pierre Mauroy. Pour le PSG, c'est une affaire de retrouvailles. Troisième affrontement en 4 ans. C'était un huitième de finale déjà en 2019. On se souvient de l'issue, la main de Kimpembe, le pénalty de Manchester et l'élimination dans les dernières secondes. C'est aussi Messi face à Cristiano Ronaldo. Il se retrouve. Ce n'est pas le tirage le plus compliqué pour Paris. Manchester United n'est pas clinquant actuellement, mais vient surtout de changer d'entraîneur. Et c'est une équipe qui peut montrer un autre visage dans 2 mois. Match aller au Parc des Princes et retour à Old Trafford parmi les autres rencontres, notamment un joli Atlético Madrid Bayern Munich. Les autres affiches à retrouver sur rtl.fr. Match aller mi-février et le retour en mars, 3 semaines plus tard.
Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar sur la pelouse du Parc des Princes, ça c'est pas mal.
Et Mbappé aussi, vous pouvez.
Et Mbappé, oui, bien sûr, bien évidemment.
Merci Nicolas.
12h41, notre premier débat du jour, c'est l'affaire Agniel et ce débat autour du consentement des mineurs. La jeune femme, qui est plaignante aujourd'hui, avait 13 ans à l'époque des faits.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Les éléments qui se trouvaient effectivement au dossier permettaient sans aucune difficulté d'abord de le placer en garde à vue. Et je pense que la connaissance qu'il a eue au fur et à mesure par les enquêteurs des éléments qui figuraient déjà au dossier l'ont entraîné effectivement à, j'allais dire, finir par admettre la matérialité des faits qui lui étaient reprochés.
Et retour donc sur cette affaire Yannick Agniel. Après la conférence de presse de la procureure de la République de Mulhouse, vous venez de l'entendre, l'ex-nageur reconnaît la matérialité des faits. Voilà ce qu'elle a dit. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Vous êtes journaliste au service police-justice de RTL. Au cœur de ce dossier, de cette affaire, il y a la question du consentement, de la contrainte.
Oui, une question qui est beaucoup plus claire aujourd'hui, hein, depuis la loi d'avril 2021. Sauf que concernant Yannick Agniel, c'est la loi de l'époque des faits qui s'applique. En 2016, on considérait donc qu'il fallait qu'il y ait contrainte pour qu'une relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un adulte soit considérée comme un viol. La contrainte peut s'exprimer de différentes manières. Elle peut être physique, sous la forme d'une menace par exemple. Elle peut être morale, elle peut prendre la forme de la surprise ou de la ruse. En dehors de ces 4 cas, le législateur estimait qu'il ne pouvait pas y avoir de viol et donc les faits étaient qualifiés en atteinte sexuelle, un délit moins sévèrement puni, 5 ans de prison ferme et 75 000 euros d'amende. Dans l'affaire de Yannick Agniel, le nageur a pourtant expliqué que les relations étaient consenties, mais la justice a retenu le viol. La procureure de Mulhouse l'a expliqué tout à l'heure. La contrainte existe bel et bien, selon elle. Elle tient en 2 points. D'abord, la différence d'âge. La plaignante avait 13 ans au moment des faits, Yannick Agniel 23, et la procureure a ajouté qu'ils avaient également tenu compte de la personnalité du mis en cause. Un champion olympique, une personne impressionnante pour une jeune nageuse, et c'est pour cela qu'il y a, selon elle, contrainte morale et donc, in fine, un viol.
Alors, nous sommes avec Muriel Salmona, qui est psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. À 13 ans, une relation sexuelle, elle est forcément sous contrainte ?
Ah bah, elle est forcément, en tout cas, le consentement ne peut pas être libre et éclairé avec un adulte. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un rapport d'égalité. Il y a forcément un rapport de force, un rapport d'autorité de la part de l'adulte. Et puis là, en l'occurrence aussi, d'autorité du fait même de qui était cet adulte et puis un proche, voilà, qu'elle connaissait. Mais effectivement, il n'y a pas de possibilité de consentir avec... Il n'y a pas la maturité, il n'y a pas toutes les connaissances, il n'y a pas la capacité à comprendre ce qui est réellement l'enjeu, ce qui se passe et ce que ça va générer aussi pour cette jeune fille, ce qu'elle va subir aussi.
C'est un débat très difficile, hein, et j'allais dire très, très touchy, mais est-ce qu'on peut considérer aussi que M. Agnel, comment dire cela en prenant des précautions oratoires, ne se rend pas compte, à 23 ans, que cette jeune femme de 13 ans n'a pas le consentement dans la relation qu'il faudrait. En clair, est-ce qu'on pourrait considérer que lui-même, et entre guillemets, je prends encore des précautions oratoires pour dire ça, parce qu'on ne connaît pas l'affaire, bien sûr, qu'il est de bonne foi, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait.
À mon avis, il sait très bien ce qu'il fait. Enfin, il connaît son âge. Il sait bien ce qu'elle attend. Elle attend certainement face à lui d'être reconnue comme une jeune fille. Elle attend de l'affection. Elle attend une. Enfin, c'est beaucoup plus une reconnaissance en fait ce qu'elle attend. Mais bien entendu pas de la sexualité adulte. Et lui, il sait bien, il connaît bien de quoi il s'agit et il voit bien. Comment elle est. Enfin, une adolescente de 13 ans, c'est pas une femme, c'est encore une enfant et qui ne doit pas vivre des situations comme ça. Mmh.
Comment vous expliquez que le regard est tant changé ? Je citais le cas de Caroline Eliatchev, qui est la fille de Françoise Giroud, qui s'est mariée en 1960, je crois, elle avait 15 ans avec Robert Hossein, et elle vivait déjà avec lui depuis de nombreux mois. Comment vous expliquez que la société apporte un regard aujourd'hui très différent sur ces couples, et notamment sur un homme d'âge mûr qui se marie avec une jeune femme ?
Bah, je veux dire, les droits des enfants ont beaucoup progressé, et heureusement. Et puis, on ne conçoit des rapports, et particulièrement des rapports sexuels, que dans un cadre d'égalité, et pas de rapport de domination, ou de force, ou d'autorité. Et on protège beaucoup plus les enfants, et on sait beaucoup plus maintenant, actuellement, l'impact traumatique que ça peut avoir, les conséquences que ça peut avoir pour une personne qui est mineure et qui est une enfant encore et que ça va dérouter complètement du cheminement normal de sa vie, de son développement. Ça va avoir un impact très lourd sur sa santé mentale et physique. Donc on protège les enfants. Voilà.
Et c'est ça sur lequel il faut insister, bien évidemment.
Bien sûr. Merci Muriel Salmona, psychiatre et présidente, je le rappelle, de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Merci aussi à vous Guillaume.
Merci. Deuxième débat dans une seconde sur Omicron.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
No one should be in any doubt. There is a tidal wave of Omicron coming.
C'était hier soir à la télévision britannique. Boris Johnson évoquait la menace Omicron. Un raz-de-marée qui arrive, a dit le Premier ministre anglais. Alors faut-il s'inquiéter ? La France peut-elle être épargnée ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Pascal Crépet.
Bonjour.
Et vous êtes épidémiologiste à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Un mot d'abord sur la situation outre-Manche. Boris Johnson a raison de parler d'un raz-de-marée qui arrive ?
Ben c'est vrai que ce variant Omicron se propage extrêmement vite et beaucoup plus vite que tout ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Tous les 2,5 jours à peu près, l'épidémie double de taille. Ça veut dire que en l'espace d'une semaine, eh bien ils peuvent faire x8 en termes de nombre de cas détectés. Donc si aujourd'hui ils sont à peu près à 3000 cas détectés, dans une semaine, ils seront peut-être à 20-25 000 cas. Donc c'est vraiment très rapide et très préoccupant.
À l'instant, le Premier ministre britannique annonce au moins un décès dû au variant Omicron. De mémoire, en Europe, on n'avait pas eu de décès lié directement à ce variant-ci, docteur ?
Alors non, mais parce qu'on est encore seulement au début. Mmh. En revanche, quand on regarde ce qui se passe en Afrique du Sud, donc il a connu ce variant bien plus tôt que nous, on se rend compte que ce n'est malheureusement pas un simple rhume, puisque les hospitalisations sont en train, en Afrique du Sud, d'augmenter assez fortement. Et donc, même si on ne sait pas encore à quel point ce nouveau variant est sévère et éventuellement létal, et même si on continue d'espérer qu'il le soit moins que le variant Delta, eh bien, il est quand même malheureusement encore problématique.
S'il était plus contagieux et moins sévère, ce serait paradoxalement une bonne nouvelle.
Ben, ça dépend, parce qu'en fait, s'il est, mettons, deux fois moins sévère, mais qu'il fait 10 fois plus de cas, eh bien, on n'est pas gagnant en termes d'hospitalisation et de mort. Il faudrait qu'il ne soit pas du tout sévère. À ce moment-là, oui, ce serait une bonne nouvelle, parce que ça permettrait, d'une certaine manière, de profiter de l'immunité acquise par l'infection pour immuniser un grand nombre de personnes très rapidement. Mais comme ce n'est pas exactement ça que l'on observe, on ne peut pas vraiment crier victoire et se dire que c'est une bonne nouvelle.
Ce matin sur RTL, Martin Hirsch annonçait une sixième vague pour janvier, liée justement à Omicron, hein, disait-il. C'est aussi ce que vous pensez ?
Alors c'est difficile de dire si ce sera une sixième vague ou le prolongement de la cinquième vague que l'on vit actuellement. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune raison de penser que ce variant ne va pas se propager et remplacer le variant Delta sur notre territoire aussi. On est déjà à quelques, au moins une centaine et certainement plusieurs centaines de cas de variant Omicron en France. On peut espérer qu'il se propage un peu moins vite qu'au Royaume-Uni parce que un certain nombre des mesures que les Anglais viennent juste de prendre sont déjà en place sur le territoire et nous
le
avons
rappel,
déjà
notamment.
Commencé. Effectivement, les troisièmes doses pour tous les adultes de plus de 18 ans. Et par chance, cette troisième dose procure une efficacité entre 70 et 75% contre les formes symptomatiques. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Même si ce variant réinfecte assez facilement les personnes vaccinées à deux doses ou déjà infectées, la troisième dose garde une assez bonne efficacité.
Mais ça veut dire que si tout le monde a sa dose de rappel d'ici fin décembre, on peut y échapper ou pas?
Alors, ce serait difficile de réussir à vacciner toute la population avec trois doses d'ici 20 décembre, mais effectivement, plus vite on pratique ces rappels vaccinaux, plus on va pouvoir atténuer sa progression et atténuer cette éventuelle sixième vague ou prolongement de cinquième vague. Et donc, c'est vraiment la direction qu'il faut prendre. Oui.
Monsieur Crépet, depuis le départ de la maladie, c'est le quatrième, cinquième variant, hein. Nous sommes d'accord, il y a eu Delta, Omicron, il y a eu le variant original, si j'ose dire, le virus original, mais on a le sentiment que c'est sans fin, que tous les 6 mois, tous les 8 mois, il va y avoir un nouveau variant.
Alors là encore, très très difficile de faire des prédictions là-dessus sur l'évolution de ce virus. Personne n'avait envisagé le variant alpha, le variant anglais, à la même période l'an dernier. On pensait tous être à sortir de cette crise.
Et c'est le quantième là depuis le départ, 4 ou 5?
Alors,
entre le départ de l'épidémie,
circule réellement sur notre territoire, on a vraiment eu après le variant originel, on a eu alpha, puis delta. Et donc là, c'est la Omicron. Il y avait, on a eu une crainte à un moment pour les variants. Le variant qu'on appelait sud-africain et puis le variant
indien
brésilien.
Aussi.
Le variant indien, c'est le variant Delta.
Oui, pardon.
Mais sinon, c'était bêta et gamma qui échappaient à l'immunité, mais qui ne se propageaient pas aussi facilement qu'alpha et delta. Donc on a échappé à ces deux variants-là. Et malheureusement, Omicron, parce qu'il se propage très facilement et qu'il a cette capacité de réinfecter des personnes que l'on pensait immuniser, malheureusement, va se propager.
Quatre variants en 18 mois.
Oui, c'est beaucoup et c'est encore une fois difficile de savoir si ce sera le dernier. Probablement pas. Il est aussi possible parce qu'il se propage assez facilement, bien que l'on ait des adaptations de ce variant. Parce que ce qui fait qu'un variant apparaît ou que le virus s'adapte, eh bien c'est parce qu'il circule beaucoup. Plus il y a de circulation, plus il y a de risques d'évolution de ce variant. Donc c'est pour ça que l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de mettre le couvercle sur ce variant, sur cette épidémie. Et la vaccination est un des moyens, mais ce n'est pas le seul. Il faut rappeler que tous les gestes barrières et toutes les mesures de prévention des infections fonctionnent sur ce variant parce qu'il se propage de la même façon, selon les mêmes modes de transmission que les variants précédents. Et donc adapter nos comportements peut être aussi une mesure.
Merci beaucoup, Monsieur Crépet. Nous sommes un poil en retard. La pause, le rappel des titres, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la...
Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-ce que les soignants sont suffisamment soutenus? Et c'est une question que nous posons à Joël. Bonjour Joël.
Bonjour Pascal Pro.
Quel est votre sentiment?
Héros d'hier, oublié aujourd'hui.